Il est 11h sur Radio Campus Tours, auditeurs, auditrices, vous écoutez La Méridienne. Bienvenue si vous nous rejoignez sur les ondes de notre belle radio. Alors je souhaitais commencer cette émission par vous dire qu'il fait 16 degrés ici à Tours, il fait 32 degrés à Bombay en Inde, il fait 34 degrés à Karachi au Pakistan et il fait 38 degrés au Cambodge, à Phnom Penh. Voilà, c'était une belle entrée en matière pour cette émission où il sera question du droit de l'environnement, de l'urbanisme. Voilà, donc c'est un master qui existe ici à Tours, à l'Université de Tours. Donc j'ai le plaisir d'avoir en studio trois personnes qui vont venir nous en parler pendant une heure. Et vous aurez le plaisir aussi d'entendre des podcasts réalisés par les étudiantes de cette filière. Alors je salue tout d'abord mes invités. Bonjour Damien Thierry.
Bonjour.
Alors vous êtes maître de conférence en droit public et vous êtes responsable pédagogique de ce master. Il y a ici en studio avec vous Amélie Boubourg. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur pédagogique au FacLab des Deux Lions et vous avez travaillé sur ce projet de podcast dont Damien Thuillier. Bonjour.
Bonjour.
Qui est chargé d'enseignement en droit de l'environnement, pourra nous parler avec vous tout à l'heure puisque ce sont ses étudiants qui les ont réalisés. Mais peut-être tout d'abord, Damien Thierry, vous voulez nous en dire plus sur ce master, parce que je suis sûre et certaine que parmi nos auditeurs étudiants ou parents, certaines personnes se posent la question de quelle formation rejoindre quand on a cette appétence pour l'environnement. Alors, ce master de droit, qui peut y accéder? Il y a combien d'étudiants par année?
Alors, c'est un master qui est accessible à des étudiants qui ont une formation en droit, donc qui ont suivi donc une licence avec donc soit totalement en droit, soit où le droit occupe une place importante. Je pense notamment donc à des filières qui ne sont pas organisées à Tours, mais qui existent dans d'autres universités, telles que la filière AES. Et du point de vue des effectifs, donc c'est un effectif d'environ 25 étudiants donc pour chaque promotion.
Alors AES, est-ce que vous voulez préciser?
Alors AES, c'est Administration économique et sociale. C'est une filière un petit peu ancienne et qui associe la pluridisciplinarité, c'est-à-dire que les étudiants d'AES suivent des cours de droit, d'économie, de gestion notamment, donc voire éventuellement d'autres disciplines complémentaires.
Et est-ce que des étudiants qui auraient fait, par exemple, le CPES au lycée Descartes, donc qui mène à une licence sciences de la transition écologique et sociale, pourraient prétendre à ce master?
Alors, je connais pas bien la maquette de cette licence, mais a priori, sauf erreur de ma part, ils n'ont pas de formation juridique suffisante. Donc, pour des étudiants de ce profil, la possibilité serait plutôt de passer par la géographie, parce que ce master a en fait une grande originalité, c'est qu'il est bidisciplinaire. En master 1, donc il y a les juristes et les géographes sont séparés. Les étudiants juristes donc suivent un master 1, donc à dominante juridique avec des cours de droit qui sont assez pointus et découvrent la géographie en même temps. De leur côté, les géographes suivent un master de géographie donc pointu et découvrent en même temps le droit. Et ensuite, ces étudiants se retrouvent être réunis donc dans la deuxième année de master avec une spécialisation, soit en environnement, c'est le parcours environnement, territoire, paysage, soit en urbanisme, c'est le parcours territoire et urbanisme.
Alors ce n'est pas non plus de la médiation scientifique, ce master?
Ça n'est pas de la médiation scientifique, hein, c'est un master qui vise à former des juristes spécialisés sur les questions d'environnement, sur les questions d'urbanisme, mais qui vont avoir une ouverture d'esprit qui dépasse le seul cadre du droit pour avoir des profils qui leur permettent de mener de façon un petit peu globale des projets en prenant en compte notamment les spécificités d'un territoire, ce qui est la caractéristique de la géographie, hein, c'est de prendre en compte les territoires. Et donc on va avoir des étudiants qui non seulement connaissent le droit soit de l'environnement, soit de l'urbanisme d'une façon un petit peu générale, mais qui sont aussi à même d'appliquer ces règles en fonction des caractéristiques propres à un territoire.
Et alors concrètement, on apprend quoi dans ces deux années de master?
Alors, beaucoup de choses.
J'en doute pas.
Du point de vue donc du droit de l'environnement, en fait, bah, c'est toute la réglementation qui est extrêmement importante, très mouvante, très évolutive et très riche sur toutes les questions qui touchent à la politique de l'eau, à la politique des déchets, aux problèmes de réchauffement climatique, aux questions de biodiversité, aux questions de risques naturels, voilà, pour citer quelques-uns des grands thèmes. Et puis, du côté du droit de l'urbanisme, et c'est tout ce qui touche à ce qu'on appelle la planification urbaine, hein, c'est-à-dire donc les règles, eh bien, de mise en œuvre de la constructibilité sur un territoire, donc, qui, là, est une compétence qui relève essentiellement des communes.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un master professionnel ou professionnalisant ?
Ah, totalement. Totalement, il est totalement professionnalisant en ce sens que en deuxième année de master, le master se fait en apprentissage, c'est-à-dire c'est l'alternance. Les étudiants sont 15 jours à la fac et 15 jours en structure d'apprentissage. Ces structures d'apprentissage pouvant être aussi bien des personnes publiques, des communes, des départements, des régions, ou des personnes privées, que ce soit des cabinets d'études, que ce soit des entreprises qui d'ailleurs prennent de plus en plus d'étudiants en alternance. Hein, ça, c'est une évolution récente. Hein, pendant longtemps, l'essentiel des apprentissages se faisait auprès des services de l'État et des collectivités territoriales. Et on constate, notamment en environnement, eh bien, qu'il y a de plus en plus d'apprentissages dans des entreprises, dans des secteurs extrêmement variés.
Alors, ce n'est pas que dans le public, hein. Vous signalez bien que c'est aussi dans le privé.
C'est exactement, hein. C'est dans le privé donc, également, donc, hein, y compris dans des domaines auxquels on ne pense pas forcément. Hein. Donc, cette année, par exemple, j'encadre des apprentis donc, auprès d'une entreprise de construction de camions, auprès de la SNCF, sur des questions donc, d'entreprises qui développent les énergies renouvelables, etc. etc. Donc, en fait, l'environnement s'applique aujourd'hui dans une multitude de domaines et de ce fait, les débouchés en réalité sont extrêmement diversifiés.
Et alors, justement, à quel métier on peut prétendre une fois qu'on a ce master en poche ?
Alors, ce sont des métiers, justement, qui sont très, très divers. En urbanisme, donc, ça va consister notamment à travailler donc soit dans les communes, dans les services de l'État ou les cabinets d'études sur tout ce qui est donc planification urbaine, c'est-à-dire définition des règles en matière de constructibilité donc sur des territoires. Il peut s'agir également de travailler dans des services de délivrance des autorisations d'urbanisme, hein, c'est-à-dire des personnes qui vont délivrer tout simplement les permis de construire, hein, pour dire les choses simplement. Et puis en environnement, donc alors dans une collectivité territoriale, ça peut être dans un département, donc travailler sur le sujet donc de la politique des espaces naturels sensibles, qui est donc des espaces préservés et en même temps ouverts au public par les départements. Ça peut consister à élaborer la politique de développement durable d'une façon un petit peu générale d'une commune. Ces plans climat, air, énergie, territoire, c'est-à-dire donc les mesures qui sont prises par une commune pour eh bien, donc, justement lutter contre la pollution, lutter contre le changement climatique. Mais ça peut également, dans le cadre du secteur privé, être des métiers d'accompagnement des entreprises qui sont soumises à des règles environnementales et donc de permettre à ces entreprises, eh bien, par exemple, de déposer leur dossier d'autorisation auprès des services de l'État, hein, donc sur des sujets divers ou de s'adapter aux nouvelles évolutions réglementaires parce que c'est des domaines où le droit évolue très très vite et donc les entreprises ont besoin de s'adapter et pour cela donc d'avoir des personnes spécialisées sur ces questions.
Je reçois une question. On me demande, pour l'apprentissage, est-ce que c'est la filière qui a un panel d'apprentissage en stock ou est-ce qu'il faut le trouver soi-même ?
Les deux. En réalité, donc, on a un organisme qui est donc le CFA, qui donc, est un organisme de formation à l'apprentissage qui nous accompagne et qui va donc recevoir et rechercher eh bien, diverses offres d'apprentissage donc, et qui ensuite eh bien, sont... adressés aux étudiants qui vont pouvoir candidater, hein, comme exactement comme on candidate pour une offre d'emploi. Mais les étudiants ont aussi la possibilité de rechercher par eux-mêmes. Parce que la, je dirais que la difficulté un petit peu pratique, c'est qu'on ne va pas trouver des apprentissages sur Tours et voilà. Les étudiants sont obligés de trouver sur l'ensemble du territoire national parce que l'offre ne serait pas suffisante uniquement donc, à Tours et ses alentours. Et donc, de ce fait, eh bien, certains étudiants peuvent avoir de la famille dans un département particulier et se dire que ce sera plus facile pour eux, eh bien, bon, bah, s'ils ont de la famille à Lyon, de trouver un apprentissage du côté de Lyon. Et donc, bah, dans ce cas, c'est plutôt eux qui vont eh bien, chercher régionalement là où ils ont envie de mener leur apprentissage. Donc en moyenne, je dirais que c'est 50-50. 50% des étudiants trouvent par eux-mêmes et puis 50% trouvent grâce aux offres d'apprentissage qu'on reçoit.
Et alors, puisqu'on a priori, on peut faire un apprentissage dans plein d'endroits, est-ce qu'on peut en faire un dans une association qui est liée à l'environnement ?
Absolument. On a donc régulièrement des apprentis donc dans des associations. Alors la difficulté qui se pose, c'est qu'un apprenti il est rémunéré et donc tout dépend évidemment de la capacité financière hein, donc de cette association puisque la rémunération correspond environ à 70% d'un SMIC. Donc c'est pas négligeable en termes de budget pour une la structure qui prend en charge donc cet apprenti, hein, même s'il y a des aides par ailleurs, hein, donc qui sont là aussi qui peuvent être importantes, mais il est tout à fait possible en effet de réaliser donc un apprentissage en association.
Est-ce que vous avez quand même un droit de regard sur les choix de stage si un étudiant souhaite faire un stage dans quelque chose disons qui est très militant?
Alors, il y a de toute façon une validation de toutes les offres d'apprentissage. Donc, avant, il y a une convention qui va être signée. Et même lorsque l'on reçoit et que le CFA, par exemple, reçoit des offres d'apprentissage, il nous interroge à chaque fois pour savoir eh bien, si l'offre répond bien aux objectifs du master. Parce qu'il faut en effet que ça touche bien à des questions donc, en lien avec l'environnement et l'urbanisme. Il faut aussi que les missions qui sont confiées correspondent à un niveau Bac plus 5. Hein, l'objectif, ce n'est pas de faire des stages d'observation ou des missions de photocopie ou de café. Il s'agit d'avoir une véritable formation professionnelle hein, qui réponde donc à un niveau qui permettra ensuite à l'étudiant, et c'est là tout l'intérêt de l'apprentissage, de pouvoir revendiquer un an d'expérience professionnelle en même temps qu'il obtiendra son diplôme de Bac plus 5.
Est-ce que c'est prudent d'arriver en formation en ayant déjà son apprentissage ?
Alors, c'est pas une obligation. Alors, en formation, en réalité, les étudiants donc, arrivent en Master 1. Donc, en début de Master 1, là, à ce moment-là, sauf très rare exception, l'apprentissage ne commence encore deuxième année. Bon, ils n'ont pas forcément d'idée à ce moment-là de l'apprentissage. Mais la recherche d'apprentissage, en réalité, se fait en ce moment, dès le mois d'avril, hein, donc avant l'année donc du Master 2, tout en sachant que les étudiants, une fois que l'année de Master 2 donc, a commencé, c'est-à-dire donc en septembre, ils disposent encore de 3 mois pour trouver un apprentissage s'ils n'ont pas trouvé. Donc le temps est quand même suffisamment large pour trouver un apprentissage, donc il n'y a pas de panique et il n'est pas nécessaire lorsque les étudiants candidatent de dire ça y est, j'ai mon apprentissage. En réalité, cette situation ne se présente quasiment jamais.
Et alors, si d'aventure un étudiant ou une étudiante a des difficultés, mais ce qui n'arrive évidemment jamais, à trouver son apprentissage, est-ce qu'on peut le substituer par un service civique ?
Alors, par un service civique, non. Alors, ça peut arriver hein, qu'un étudiant ne trouve pas un apprentissage, hein, parce que alors ça arrive de moins en moins parce qu'on le master aujourd'hui est ancien et donc on a un réseau qui est de plus en plus important. Certains étudiants font parfois preuve d'un peu de manque de volonté hein, pour trouver. Et donc, c'est un petit peu. Et dans ce cas-là, en fait, c'est un stage obligatoire. Hein, ce ne sera pas un service civique, mais c'est la formule d'un stage obligatoire hein, qui viendra remplacer l'apprentissage.
Et alors, Damien Thierry, puisqu'on parlait des associations et des militants, comment le rôle de ces acteurs-là est abordé ou pas dans le cadre de la formation ?
Alors, il est abordé, je dirais, de façon indirecte, en ce sens que les associations, alors notamment dans le cadre, par exemple, du cours de droit de l'environnement que j'enseigne en Master 1, les associations donc, sont des acteurs importants donc, pour justement faire évoluer le droit, notamment par l'intermédiaire du contentieux. Hein, c'est-à-dire que Les associations vont saisir le juge pour contester des décisions publiques ou se constituer partie civile à l'occasion de dommages importants à l'environnement. Et il arrive que le rôle de ces associations contribue à faire évoluer le droit. Je pense notamment à une grande évolution du droit de ces dernières années qui a été la consécration du préjudice écologique. Le préjudice écologique, c'est l'idée selon laquelle on va pouvoir imposer la réparation d'une atteinte à l'environnement lorsque c'est l'environnement unique, seul, qui a été affecté sans toucher atteinte à des intérêts de personnes privées ou de personnes publiques. Parce qu'en matière de responsabilité, normalement, il faut qu'il y ait une victime qui puisse saisir le juge. Or, lorsque ce sont des oiseaux qui sont victimes d'une marée noire, évidemment, les oiseaux n'ont pas accès directement au juge. Et ce principe du préjudice écologique a permis justement de faire évoluer le droit. C'est-à-dire qu'on a considéré, le juge a accepté l'idée qui avait été avancée notamment par des associations, que on puisse engager la responsabilité d'une personne lorsqu'elle porte atteinte à la nature d'une façon générale. Et ça, c'est notamment grâce aux associations.
Est-ce que ça fait écho aussi aux travaux en cours sur le Parlement de Loire, par exemple ?
Alors, bien entendu, ça fait partie des évolutions possibles et on peut très bien imaginer que demain, l'idée de personnalité juridique, par exemple, d'un élément de nature comme la Loire, puisse être consacrée un jour par le juge. C'est une évolution. Alors, le droit, il évolue en fait par différents biais. Il évolue par le fait du législateur qui va donc adopter des nouvelles règles dans un domaine ou dans un autre. Mais le droit, il évolue parfois par le rôle du juge qui considérant qu'il y a un vide qui conviendrait de combler, va pouvoir accepter des évolutions ça s'est fait dans d'autres pays où la personnalité juridique d'un élément de nature a été acceptée par le juge parfois avant d'être consacrée par le législateur. Donc pourquoi pas en effet c'est imaginer que ces travaux du Parlement de Loire puissent bénéficier d'une évolution en ce sens.
Alors, vous évoquiez aussi la possibilité d'être en stage ou en apprentissage, auprès d'une collectivité, d'une municipalité ou autre. Et qu'en est-il du positionnement à avoir vis-à-vis des élus en tant que juriste ou futur juriste? Qu'est-ce que vous leur dites à vos étudiants? Est-ce qu'ils sont, dans un rôle, de garde-fou? Ou alors, est-ce qu'ils vont plutôt avoir une habilité, à tordre le droit pour que certains élus puissent suivre leur noir dessein?
Je dirais une grande difficulté d'une façon globale, notamment des questions d'environnement, c'est que les étudiants arrivent souvent plein d'idéaux. D'ailleurs, c'est la philosophie du master. L'idée du master, c'est pas repose sur une certaine éthique, on pourrait dire, qui est favorable à la protection de l'environnement. C'est plutôt en ce sens que les cours sont présentés, même s'il y a évidemment une volonté de neutralité, mais il y a cette idée générale. Alors, après, en effet, lorsqu'ils sont confrontés à la réalité des métiers du droit, c'est que souvent, un certain nombre d'acteurs voit le droit de l'environnement comme une contrainte. Et donc, il faut éviter au maximum et vont attendre des juristes spécialisés dans l'environnement des réponses pour finalement atténuer au maximum les obligations qui découlent du droit. Alors, c'est vrai pour les élus, c'est vrai, ça l'est peut-être encore plus pour les entreprises qui sont soumises à ces règles, dont la finalité, c'est pas de faire plus nécessairement pour protéger l'environnement, mais c'est plutôt de se dire, on a des contraintes, comment on peut faire pour que ça nous coûte le moins cher possible, que ce soit le moins contraignant possible. Et donc, de ce fait, pour les étudiants, c'est en effet un des éléments importants de l'apprentissage, c'est de bien comprendre ce jeu d'acteurs. Et lorsqu'ils sont dans une collectivité territoriale, dans une commune, dans un département, ils vont être dans un service administratif qui peut avoir un certain nombre, dont les personnes y travaillent vont avoir un certain nombre d'objectifs et d'idéaux en matière environnementale. Mais qui vont devoir aussi faire face à leurs commanditaires que sont les élus. Et donc, à partir de là, ce n'est pas forcément toujours simple, d'autant plus que bon, si les services administratifs bénéficient d'une certaine stabilité, les élus peuvent changer. Et donc, un service peut être très engagé sur une question voilà, de protection de l'environnement avec l'appui d'élus, et puis donc mener des projets ambitieux. Et puis, des élections passent, une nouvelle équipe arrive, et à ce moment-là, bah, les consignes ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, bah, le rôle de ces personnes, ce sera évidemment d'être un petit peu une interface, mais de contraint quand même hein, de tenir compte donc des obligations qui sont imposées par les élus, hein, tout en essayant potentiellement de les convaincre. Mais c'est un exercice difficile et justement de compréhension de ces jeux d'acteurs hein, pour voilà chercher à atteindre au maximum donc leurs objectifs, mais en même temps en tenant compte qu'ils sont obligés hein, donc, de respecter aussi ce que leur demandent les élus.
Donc ça veut dire, comment dire, que vous leur enseignez aussi qu'ils sont libres, parce qu'après tout ils ont ce bagage, ces connaissances, et ils en font ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent. Ça veut dire qu'on a toujours le choix quand on est juriste?
Ah ben quand on est juriste, après, il y a toujours, bon, c'est une question d'application, d'interprétation de la règle. Hein, deux juristes, en effet, face à une même situation juridique, n'apporteront pas forcément systématiquement la même réponse. Hein. Il y a à la fois bon, une logique scientifique. Hein, le droit répond à des règles qui sont quand même bien fixées, mais en même temps, bon, appliqué au cas par cas, en effet, selon la sensibilité de chacun. Donc, le droit, c'est aussi un outil qui est flexible.
Est-ce que vous pourriez avoir le cas d'étudiants qui choisissent délibérément d'aller dans des entreprises parce que, entre guillemets, ça paye bien?
C'est pas tellement le profil type de nos étudiants. On a des étudiants qui sont plus passionnés, justement, par l'environnement que par des objectifs. Alors après, évidemment, dans les choix de carrière, il y a un moment ou un autre, le fait d'aller dans un secteur ou dans un autre en fonction de la rémunération, ça va pouvoir jouer. Mais par rapport à la motivation initiale des étudiants, un étudiant ne s'engage pas dans l'environnement ou dans l'urbanisme pour des questions financières. Hein, il ira plutôt vers d'autres masters, hein, tels que la gestion des entreprises, etc. Donc, c'est pas la motivation numéro un. Hein, c'est plutôt des étudiants qui sont au départ passionnés par les questions d'environnement ou par les questions d'urbanisme et qui ont des idéaux.
Alors, vous soulignez aussi justement la dimension éthique, peut-être qu'il y a dans ce master, dans cet intérêt pour l'écologie. Donc, on voit dans la plaquette qu'il est question de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, du principe pollueur-payeur, des démarches participatives. Est-ce que vous diriez justement que ce master, il a une dimension politique? Et si oui, dans quel sens?
Oui, nécessairement, parce que bon, La finalité globale, c'est quand même de sensibiliser les étudiants vers plus une prise en compte des grands enjeux environnementaux, que ce soit la question du changement climatique, que ce soit les fortes atteintes à la biodiversité. Donc à partir de là, il y a nécessairement, à travers les différents enseignements qui leur sont présentés, une volonté d'aller vers plus de sensibilisation et donc de prise en compte de ces grands enjeux.
Quid de la justice sociale? Parce que les îlots de chaleur, ça peut aussi peut-être se trouver dans des endroits où il y a beaucoup d'immeubles et pas beaucoup d'arbres. Ça peut être dans certains pays plutôt que d'autres.
Alors ça fait partie en effet des questions hein, qui sont abordées dans le cadre des cours et notamment à travers ce qu'on appelle la notion de développement durable. Le développement durable, c'est un principe qui repose sur trois piliers. Hein. C'est un pilier alors économique, hein, puisqu'il s'agit de développement, hein, donc de permettre à une société de continuer de se développer. Hein. Un principe écologique hein, qui permet donc justement d'avoir un développement qui soit respectueux de l'environnement et qui ne prive pas les générations futures de la possibilité de bénéficier d'un environnement sain. Mais il y a aussi un environnement, un aspect social un troisième aspect qui est très important, c'est-à-dire que bah, toutes ces contraintes, qu'elles soient supportables par toute la population et qu'elles ne se traduisent pas, en effet, par des inégalités sociales qui feraient que bah, seuls les plus riches, finalement, pourraient s'en sortir. Donc, on a pu le voir notamment avec, bah, avec la crise des Gilets jaunes, par exemple, ou les questions de coût de l'énergie, bah, évidemment, donc, ont affecté une partie de la population et ont amené une partie de la population à dire que ces surcoûts étaient quelque chose de, d'inacceptable du point de vue social. Et c'est toute la difficulté, d'ailleurs, de la politique, des politiques d'environnement et des politiques d'urbanisme, d'une façon générale, c'est de trouver ce juste équilibre entre protection de l'environnement et enjeux sociaux. Et c'est là un élément de toute évidence très, très important et qui d'ailleurs est une justification supplémentaire aussi du volet géographique, parce qu'à travers donc, ce double regard du droit et de la géographie, on a aussi cette dimension sociale qui est importante.
Alors, je me suis penchée sur la plaquette de ce master hein, pour préparer cette émission et je vois, là, passons au master 2, qu'au semestre 10, il y a un enseignement qui s'appelle Nature en ville. Donc, évidemment, ça fait écho à cet excellent ouvrage que j'ai ici avec moi, paru à l'Harmattan, Faire Nature en ville, donc qui a été commis par des chercheurs de CITER, du laboratoire CITER, donc qui est une unité mixte de recherche CNRS ici à Tours. Voilà, donc Jean-Paul Carrière, Francesca Di Pietro, Abdelila Hamdouche, Amélie Robert et José Serrano. Donc je vous invite évidemment à le lire ou alors à aller écouter l'émission où il en est question. Voilà, moi aussi je suis un peu de pub. Et donc justement, pour en revenir à ce master Nature en ville, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un écosystème universitaire qui existe ici sur les deux Lyons, entre ce laboratoire CITER du CNRS et le département aménagement et environnement de Polytech Tours?
Absolument. Alors déjà, donc le master, lui, s'appuie sur deux équipes de recherche, hein, puisqu'il est bidisciplinaire. Donc CITER donc est l'une de ces équipes, hein, et donc l'autre équipe étant l'IRGI, donc l'Institut de recherche juridique François Rabelais, hein, donc qui interdisciplinaire François Rabelais, hein, qui est le volet droit. Et on a des travaux communs, donc. Notamment, alors je pense à un programme qu'on vient de lancer, donc avec la métropole de Tours et avec donc ces différents laboratoires, donc sur la question de la protection des sols dans les politiques d'urbanisme. Et donc c'est un projet donc là qui est mené donc sur 3 ans et dont l'objectif est de dépasser la seule question de l'artificialisation des sols, parce que en matière de politique d'urbanisme, bon, on a tendance à avoir une politique un petit peu binaire entre des sols artificialisés et puis des sols qui ne le seraient pas. Et là, l'idée, c'est d'intégrer, de nous intéresser à la question des sols vivants et donc à toutes les fonctions, en réalité, que représente un sol, c'est-à-dire de nous intéresser au sol pour lui-même, avec ses différents enjeux, et voir comment, à travers une politique d'urbanisme, eh bien, on pourrait justement donc mieux préserver donc ces sols dans leur biodiversité, dans leur capacité à absorber les gaz à effet de serre, dans leur capacité à permettre le bon écoulement des eaux, mais également la dilution des pollutions, etc. Et donc ça, c'est un projet donc qui est justement pluridisciplinaire, puisque même s'il est mené par 3 juristes, hein, Camille Drevaux, qui est une privatiste, Corinne Manson en droit de l'urbanisme et moi-même pour le volet environnement, on travaille également donc avec des géographes, avec des archéologues, etc. Notamment José Serrano, que vous évoquiez, donc, qui est l'un des co-auteurs de l'ouvrage Nature en ville, hein, qui fait partie, entre autres, voilà, des personnes avec qui on travaille.
Alors je cite aussi Mathilde Gralpois, donc, qui est vice-présidente en charge de la transition écologique et qui, elle, enseigne au département aménagement et environnement à l'école polytechnique. Donc voilà, qui est aussi une chercheuse du laboratoire CITER. Et donc là, sur ces métiers-là, ces futurs ingénieurs, est-ce qu'il y a des croisements qui existent avec vos étudiants juristes?
Alors, on est sur des métiers qui peuvent être relativement proches, en partie, même si on est, du moins par rapport aux thématiques. Hein. Les thématiques globales, donc entre ces ingénieurs en matière d'aménagement et puis nos étudiants, bah, portent un petit peu sur des thématiques similaires. Après, c'est plutôt l'approche et la spécialisation qui va faire la différence. Hein, donc nous, on va avoir des étudiants qui vont, des futurs professionnels qui vont travailler plus sur le volet juridique notamment. Donc alors que à Polytech, on sera plus sur des questions d'ingénierie. Donc voilà. Mais ce sont des personnes qui peuvent se retrouver après dans le même service, hein, peuvent être amenées à travailler ensemble.
Donc des étudiants qui seront des juridisons généralistes de l'environnement, ça veut dire qu'ils peuvent travailler sur dans toutes les aires géographiques, ou est-ce qu'il faut déjà anticiper sur le fait qu'il y aura une mise à jour de connaissances à faire si, par exemple, d'aventure, on est embauché dans une ville du littoral?
Alors, le principe, et c'est l'idée d'un Master 5, hein, d'un Bac plus 5, pas d'un Master 5, pardon. Le principe d'un Bac plus 5, c'est qu'en effet, donc, on forme des étudiants qui ont une compétence générale dans le droit de l'environnement et dans le droit de l'urbanisme, et qui seront à même de s'adapter à des territoires différents. Le droit de l'environnement que j'ai appris, moi, quand j'étais étudiant, et celui que j'enseigne aujourd'hui, n'a rien à voir. Il a totalement évolué. Et il ne cesse d'évoluer. Donc, ce qu'on apprend aujourd'hui aux étudiants sera en partie obsolète dans quelques mois, dans quelques années. Donc, de toute façon, les étudiants sont amenés, évidemment, donc à évoluer de ce point de vue-là. Alors, après, en effet, il y a des thématiques qui sont propres à chaque territoire. C'est vrai que la question du littoral, on l'aborde un petit peu, on l'évoque un petit peu, mais ce n'est pas la spécialité sur Tours. Il y aura des masters parfois spécialisés sur la protection du littoral, sur des universités plus proches de ce littoral. Et donc, en effet, il peut être nécessaire de s'adapter. Hein. Mais bon, nos étudiants sont prêts à ça, en ce sens qu'ils ont un bagage juridique suffisant pour ensuite, de s'adapter à n'importe quelle situation, à n'importe quel contexte.
Pardon, Damien Thierry, maître de conférence en droit public, responsable du master droit de l'environnement, je vous remercie d'avoir répondu à toute cette batterie de questions. Et avant de s'intéresser justement à une innovation pédagogique qui existe dans l'année de Master 1, dont nous parlerons Thomas Tullier et Amélie Bourg, ingénieurs pédagogiques au FacLab, je vous propose de faire une pause musicale et nous allons aller du côté de Zanzibar. On va écouter Bikidu, on se retrouve tout de suite après sur Radio Campus Tour, c'est toujours la Méridienne sur le 99.5 FM.
Jazameni, alivofanya kijiti. Jazameni, jazameni, alivofanya kijiti.
C'était Bikidude. Voici de retour dans cette émission le master droit de l'environnement. Alors, je suis toujours avec mes invités, c'est-à-dire Damien Thierry, Thomas Tuillier et Amélie Bourg. Alors, on a léché nos auditeurs avec une innovation pédagogique avant cette pause musicale dans la Méridienne, donc un projet de podcast. Donc là, je me tourne vers vous, Thomas Tuillier, chargé d'enseignement, et vers vous, Amélie Bourg, ingénieure pédagogique au FacLab, pour tout savoir sur ce projet de podcast.
Je t'en prie, Thomas. Alors, moi, je peux déjà parler du FacLab, qui est donc un projet qui a vu le jour en 2018, sous financement européen, a pu construire donc déjà des lieux sur la faculté de médecine, la faculté de droit et la faculté de sciences et techniques, des lieux où il y a à disposition des outils multimédia, des caméras, des micros, des postes de montage, de post-production. Des lieux aussi où on peut se réunir pour écrire, puisque tous ces produits multimédia ont besoin d'écriture. Et on travaille avec des enseignants qui souhaitent un petit peu diversifier leurs pratiques pédagogiques et donner à faire aux étudiants des vidéos ou des podcasts ou des affiches ou des photographies ou des sites web également. Et on travaille en collaboration, en étroite collaboration avec l'enseignant pour accompagner les étudiants, soit sur un semestre, soit sur une année. Et parfois, ce sont des projets qui se renouvellent d'année en année construire ces produits multimédia. Donc là, en l'occurrence, ce sont des podcasts que Thomas souhaitait faire à ses étudiants.
Justement, pour rester sur la genèse un peu du projet, il y a 5 ans, j'ai été invité à participer en tant que membre d'un jury à la présentation de vidéos réalisées justement par le département aménagement de Polytech, de l'école polytechnique universitaire de Tours. Et j'ai découvert donc ce projet de FacLab et des productions audiovisuelles réalisées par les étudiants. J'ai trouvé ça d'une très grande qualité et puis surtout extrêmement pertinent sur le plan pédagogique, puisque ça a amené les étudiants à développer des compétences qu'ils n'ont pas forcément l'occasion d'acquérir dans le cadre de leur cursus universitaire. Je pense à des compétences de vulgarisation scientifique, de gestion de projet sur un temps long, de compétences vraiment extérieures au cursus académique avec de la prise de son, de vidéo, etc. Et par ailleurs, ce sont des compétences aujourd'hui quand on est notamment juriste, hein, que l'on développe de plus en plus, qu'on attend de plus en plus des étudiants et des professionnels du droit. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le juriste s'exprimait à travers ses écrits, principalement, à travers l'art oratoire. On pense naturellement à ces deux aspects-là. Pour autant, on remarque aujourd'hui que les nouveaux juristes, ils s'expriment à travers de nouveaux médias, notamment des podcasts, notamment des vidéos. C'est le cas de beaucoup d'avocats, de beaucoup d'entreprises également qui souhaitent développer cette forme d'expression pour vulgariser le droit et le rendre accessible à toute personne qui souhaite défendre notamment ses intérêts. Et voilà, dans cette perspective, quand j'ai découvert ce projet de vidéo réalisé donc par le département aménagement de Polytech sur la question notamment des inondations, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. J'ai proposé à Damien Thierry de développer cela au sein du master droit de l'environnement, droit de l'urbanisme, ce qu'il a accepté. Et donc on s'est lancé, maintenant c'est la cinquième année, hein, sur ce projet pédagogique au sein de l'unité d'enseignement projet d'aménagement et de développement durable, alors qui regroupe différents projets, mais notamment un projet avec le Fac Lab de Tours, enfin de la faculté de droit. Pendant 4 ans, on a fait le choix d'utiliser comme média des vidéos qui nécessitent un investissement, je pense, de la part des étudiants qui est extrêmement important, puisque ça nécessite à la fois de maîtriser la dimension prise de son, mais également le montage vidéo. Donc c'est loin d'être simple. Et cette année, on a voulu un peu changer de média aussi face à l'essor du mouvement des podcasts qui est aujourd'hui extrêmement important. On s'est dit que ce média-là était peut-être à privilégier, puis ça permettait aussi de faire un peu évoluer cet enseignement. Et donc on a lancé pour la première année des podcasts sur des sujets donc d'actualité en lien avec les questions d'environnement et d'urbanisme qui sont les deux thématiques centrales du Master 1, droit de l'environnement, droit de l'urbanisme. Ces sujets, au départ, on propose aux étudiants une batterie de sujets qui portent à la fois, donc vous l'avez mentionné d'ailleurs tout à l'heure, sur les questions d'îlots de chaleur urbains, d'inondations. On a parlé des inondations dans le Nord récemment, c'est un vrai sujet. Et donc naturellement, on a souhaité le proposer aux étudiants, des questions de préjudice écologique à travers l'affaire du siècle sur les questions de changement climatique par exemple, ou à travers les algues vertes en Bretagne. Bref, ce sont des sujets qui sont très concrets, qui parlent aujourd'hui à la très grande majorité de la population. Et très souvent, lorsque l'on s'exprime sur ces questions-là, sur le plan juridique, qu'on n'a pas toujours les bons mots, les bonnes façons de l'aborder. Or, nos étudiants, ils ont les compétences juridiques pour pouvoir aborder ces questions-là de manière sérieuse, rigoureuse, tout en les vulgarisant, en les rendant accessibles au plus grand nombre. Et donc, c'est vraiment le projet central de cette unité d'enseignement, projet d'aménagement et développement durable.
Bon, on voit bien que vous êtes rompu à l'éloquence tout de même. Donc ça, c'est une compétence que vos étudiants ont toujours. Ça ne disparaît pas avec le temps, quand bien même on leur apprend en plus à faire des podcasts.
Tout à fait, tout à fait. Oui, c'est un point qu'on souhaite toujours mettre en avant au sein de cette formation. Pour autant, là, voilà, c'est à travers cette unité d'enseignement, on développe d'autres compétences que strictement l'art oratoire. C'est aussi de bien organiser un propos, de le rendre clair, structuré, accessible, comme je le disais, et intéressant. Puisque, bon, le juriste, certes, a des capacités oratoires, pour autant, ce n'est pas toujours certain qu'il réussisse à attirer et à maintenir l'intérêt et l'attention de son auditoire. Donc, tout le but de ce projet, c'est aussi de susciter l'intérêt des personnes qui vont écouter les podcasts.
Alors là, justement, puisqu'il est question de podcast, d'aucuns diraient que le podcast est quand même très lié à une activité commerciale ou publicitaire. Du coup, là, je me tourne aussi vers vous, Amélie Bougour. Comment vous avez pu expliquer aux étudiants la nature, en tout cas, qu'est-ce qui était attendu d'eux dans le terme de ces podcasts qu'on aura le plaisir d'entendre sur Radio Campus ?
Alors, avec les étudiants en droit en particulier, il s'agit quand même de leur faire comprendre que ça reste un reportage qu'ils doivent faire, sonore. Donc, tout doit être compréhensible et ça va un peu à l'encontre de leur... moi, il me semble, hein, parce que moi, je ne suis pas du tout issue d'une formation de droit, ça va un peu à l'encontre de leur formation, c'est-à-dire que c'est ça donne un podcast, ça donne envie, ce que je leur explique, ça doit donner envie d'aller un peu plus creuser le sujet, mais ce n'est pas un livre, ce n'est pas un article, ce n'est pas de l'écrit, et on donne quand même beaucoup plus d'informations et des informations exhaustives à l'écrit. En revanche, à l'oral, voilà, dans le documentaire sonore, dans le podcast, ça reste donner une ambiance, donner des informations, mais des informations qui restent quand même, comme c'est oral, il faut quand même donner juste envie à l'auditeur d'aller en savoir plus, de se renseigner davantage sur le sujet. Cette année, on leur a aussi, j'en profite, demandé d'aller réaliser une interview. Donc ça, c'est aussi une compétence qu'il leur est demandé, d'aller à la rencontre d'un professionnel, quel qu'il soit, que ce soit un intervenant associatif ou politique, ou enfin un responsable politique, c'est leur apprendre à solliciter une interview et à aller réaliser cette interview. Et puis aussi, moi, je les incite à aller enrichir leur podcast d'ambiance sonore, à aller un peu à la chasse au son. Donc c'est... pour faire la différence, après je reviens sur votre question, effectivement, pour faire la différence entre un documentaire sonore et un produit publicitaire, c'est que là, il faut qu'ils argumentent. Ça reste quand même un podcast scientifique issu d'une formation universitaire. Donc, leur propos est argumenté. Et donc, ce n'est pas de la publicité pour une idée ou une autre, c'est développer un argumentaire, mais de manière sonore. Donc il faut que ce soit attractif pour l'auditeur.
Droit de l'environnement pour les nuls, alors ?
Eh bien, moi, je... Non, c'est quand même... La cible, elle est quand même... Enfin, les auditeurs sont des... On estime que ce sont quand même des personnes déjà sensibilisées à la question. On fait faire par d'autres étudiants aussi des podcasts pour les enfants, par exemple. Donc là, c'est un autre travail, une autre écriture. Là, les étudiants en master 2 de bac plus 5, on leur demande de s'adresser à des personnes qui sont déjà un peu sensibilisées aux droits de l'environnement.
Alors, je me tourne vers vous aussi, Thomas Tullier, cette idée de nouveaux supports pédagogiques, donc de vidéos, de podcasts ou de toute autre chose dont nous parlait Amélie Bourg. Est-ce que ça répond aussi à des nouveaux profils d'étudiants, à une nouvelle façon d'apprendre ? Est-ce que l'enseignement du droit évolue aussi ?
L'enseignement du droit évolue nécessairement aussi avec les étudiants que nous avons, puis avec les nouveaux outils dont nous disposons. Donc effectivement, à travers ce module-là, cette unité d'enseignement-là, on va enseigner différemment. Et ça, je pense que c'est aussi tout ce qui est appréciable à travers le FacLab. C'est-à-dire qu'on a déjà un espace, un environnement de travail qui est très différent de l'environnement habituel. Nous ne sommes pas dans une salle de cours, on est dans un tiers-lieu, on pourrait dire, enfin, en tout cas un espace où il y a des canapés, des chaises, des tables qu'on peut bouger dans tous les sens, des grands tableaux, des espaces très clairs, des écrans. Enfin, c'est vraiment un espace qui est inhabituel pour le juriste, en tout cas quand on enseigne, c'est pas l'endroit où on enseigne habituellement, et qui amène à une forme d'apprentissage qui est peut-être plus, une forme d'enseignement qui est peut-être un peu plus informelle par rapport aux formes d'enseignement habituelles. Et ça, c'est vraiment un point, je pense, ici intéressant et agréable, tant pour l'enseignant que pour les étudiants. Ça, c'est le premier point. Et au niveau des profils d'étudiants, on constate quand on échange avec eux que nombre d'entre eux ont déjà essayé de faire, de créer leur propre podcast, leur propre petite radio de leur côté lorsqu'ils étaient plus jeunes, ou ont déjà essayé de créer des vidéos. Et donc finalement, on mobilise un peu ces compétences-là en essayant de les utiliser à travers la question juridique. Et l'autre élément, enfin, que j'ajouterais, c'est peut-être que c'est un argument de promotion à destination des futurs étudiants. C'est un élément qu'on met en avant dans le cadre de la promotion du master droit de l'environnement, droit de l'urbanisme. Et les étudiants semblent, enfin, en tout cas les candidats semblent assez intéressés par cette forme d'enseignement qui est originale. Et dernier point enfin, sachez que les supports, enfin les les différents médias qui sont réalisés par les étudiants sont ensuite réutilisés. C'est-à-dire que dans le cadre, par exemple, de mes enseignements, je régulièrement, lorsqu'on aborde une thématique, par exemple, quand on va aborder la question des déchets, il y a un an, il y a une vidéo qui a été faite sur la question des déchets, eh bien, je présente, pour introduire ma séance, je diffuse la vidéo qui a été réalisée par les étudiants. Donc, on est vraiment en plein dans le cœur du projet New Teach et FacLab, c'est-à-dire de développer des supports d'enseignement par les étudiants, pour les étudiants. Et là, on est vraiment pleinement au cœur de ce projet-là.
Qu'est-ce que ça change dans le rapport au savoir ?
Oula, vaste question. Qu'est-ce que ça change au niveau des savoirs ?
Alors moi, pour te laisser le temps d'y réfléchir, je dirais que quand je commence à leur enseigner comment on écrit un podcast ou un reportage vidéo, en fait, je les mets dans la position de l'enseignant quelque part, c'est-à-dire que c'est à eux d'expliquer le sujet qu'ils ont à traiter. Donc c'est toujours assez particulier, c'est quelque chose qui se fait beaucoup à l'école, de demander quand on demande aux enfants de faire un exposé, c'est un peu de se retrouver dans la position de l'enseignant, et ça donne forcément un rapport au savoir très différent, puisque la personne se trouve dans la démarche de trouver des explications, trouver des exemples, des illustrations, et de se soucier de l'écoute de son auditoire, de comment ça va être reçu, ce qu'elle le dit, est-ce que ça va être clair, est-ce que c'est le bon vocabulaire, est-ce que c'est la bonne explication. Et donc forcément, la personne qui fait, enfin l'étudiant ou l'élève, ou l'écolier même, qui fait un exposé, doit avoir bien compris son sujet, doit l'avoir maîtrisé, parce que des fois, il anticipe quand même les questions qui vont lui être posées, etc. Donc déjà, au niveau du rapport au savoir, je pense que ça joue pas mal.
Oui, et tout à fait. Enfin, en t'écoutant, je réfléchissais justement, et on constate que, enfin, lorsqu'on travaille avec les étudiants, donc sur le temps long, c'est quasiment 6 mois, 7 mois de travail, de suivi de projet. Les étudiants juristes qui arrivent en Master 1, il y a une forme d'évidence au niveau du savoir juridique. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent le langage, qui est un langage particulier, ils maîtrisent un certain nombre de connaissances, de concepts, qui leur paraissent très clairs. Évident, et qui ne nécessite pas de vulgarisation à destination du grand public. Or, le grand public, lorsqu'il écoute un juriste qui va vraiment parler dans son langage juridique, clairement, c'est peu compréhensible. Donc, le premier travail que l'on réalise avec les étudiants, c'est justement ce travail-là de simplifier le langage tout en étant précis et rigoureux dans l'analyse. Et ça, c'est un travail qu'ils vont pouvoir ensuite mobiliser dans le cadre de leur future expérience professionnelle. Puisque lorsque le juriste, notamment, travaille dans le milieu professionnel, il a affaire à des personnes qui sont principalement non-juristes. Alors, sauf quelques exceptions, ce sont principalement des non-juristes. Et donc, son vrai travail au quotidien, c'est justement de réussir à exprimer clairement des situations complexes. Donc, voilà, ce rapport au savoir, je pense que le projet FacLab, et donc cette unité d'enseignement de projet d'aménagement et de développement durable, permet de les sensibiliser à cette question-là et de les amener à prendre conscience donc de la nécessité d'être simple, clair et efficace dans leur discours.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement.
Tout à fait.
Voilà, on revient toujours à cette vieillerie. Est-ce que c'est angoissant pour des étudiants de se contraindre à faire simple pour des choses aussi compliquées ?
Oh là, oui, tout à fait. Tout à fait. Au début, il y a une forme de... Allez, je pense que les étudiants, au départ, sont un peu effrayés par ce projet, ou ça leur paraît a priori très simple, et au final, ils se rendent compte que c'est très compliqué. Donc c'est vraiment le rôle que nous avons, nous, donc à la fois Milly Bourg et moi-même, que d'accompagner les étudiants à cette prise de conscience, à cette simplification dans leur présentation, tu parlais de chasse au son, voilà, à leur dire, quand on écoute un podcast, on n'écoute pas uniquement une personne qui parle, on écoute aussi une ambiance, on doit essayer, en fermant les yeux, de se représenter l'endroit où se situe la personne qui parle. Donc c'est tout un travail que l'on mène avec eux durant ces 6 mois.
Oui, c'est pas moi qui vous dirais le contraire. Et justement, puisque on aura la chance d'entendre les podcasts cette semaine sur nos ondes, aussi bien le matin à 7h30 que dans la Méridienne toute la semaine, on va en écouter un puisque je vois qu'il est déjà bientôt midi et qu'on ne va pas louper cette diffusion, hein, puisqu'on l'a annoncé même sur les réseaux sociaux. On va écouter un épisode de ce podcast en 5 épisodes, rappelons-le, et on va écouter celui sur les îlots de chaleur. Alors, avant de lancer le podcast, peut-être que vous voulez dire un mot sur les étudiants qui ont préparé ce podcast.
Alors, ce podcast a été réalisé par, de mémoire, 5 étudiants, Marie, Yanis, Victor, Rachel et Ali. La mission, voilà, la question qui leur était posée, c'était comment agir contre les îlots de chaleur urbains par le droit. Et cela faisait suite à plusieurs étés caniculaires et difficilement vivables pour les habitants. Donc comment justement le droit peut faire en sorte de rendre la vie plus vivable, la ville plus vivable, notamment dans un contexte de changement climatique.
Voilà, et ça me permet de teaser l'émission de jeudi. Rendez-vous 11h dans la Méridienne pour une nouvelle émission sur ces questions-là. Et on parlera justement, ça tombe bien, des îlots de chaleur urbains. Il y aura même avec moi en studio un étudiant pour co-animer cette émission. Donc rendez-vous jeudi. En attendant, je lance ce podcast. Et évidemment, je remercie mes 3 invités d'être venus nous présenter ce master droit de l'environnement de l'Université de Tours, faculté de Lyon. Merci Damien Thierry, maître de conférence en droit public et responsable du D-Master. Thomas Tuillier, chargé d'enseignement en droit de l'environnement. Et Amélie Bourg, ingénieure pédagogique au FacLab. On rappelle aussi qu'on peut écouter tous les podcasts sur le site du FacLab. Donc voilà, rendez-vous sur le site d'Amélie Boumour pour écouter la totalité de la collection. Voilà, il me reste à vous souhaiter à tous et à toutes la meilleure journée possible, évidemment à l'écoute de nos programmes. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, merci. Au revoir. À vous.
Chers auditeurs, bienvenue dans la série de 5 podcasts des étudiants du Master 1, Droit de l'environnement et de l'urbanisme de l'Université de Tours.
Vous êtes actuellement en train d'écouter le premier épisode intitulé « La ville en surchauffe, agir contre les îlots de chaleur urbains par le droit » présenté par Marie, Yanis, Victor, Rachel et Ali.
Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Campus. Bienvenue dans ce premier podcast qui vous plongera au cœur des enjeux juridiques liés à la transformation des villes face au changement climatique. Aujourd'hui, nous explorerons les méandres des politiques urbaines et des défis juridiques auxquels nos villes sont confrontées. On constate que les effets du changement climatique sont de plus en plus présents dans l'actualité avec les récentes canicules. Un terme émerge dans l'actualité, les îlots de chaleur urbains.
Global s'ajoutent des phénomènes d'îlots de chaleur.
L'îlot de chaleur urbain est un phénomène climatique.
C'est ce qu'on appelle l'effet d'îlot de chaleur urbain.
Les îlots de chaleur urbains sont des espaces soumis à des phénomènes d'élévation importante de la température dans les environnements urbains. Le terme est apparu au milieu du XXe siècle et renvoie expressément à des microclimats à l'échelle d'îlots, ce que l'on a longtemps peu considéré. Aujourd'hui, rattrapés par le réchauffement climatique, ces phénomènes engendrent des températures au sol très élevées, qui sont la conséquence des activités humaines, des matériaux de revêtement et la présence ou non d'espaces naturels. Les moyens classiques de lutte contre les îlots de chaleur urbains sont la végétalisation et la désimperméabilisation des sols. Nous avons décidé de nous concentrer sur la ville de Tours. Cette dernière dispose à la fois d'un patrimoine historique riche et d'une identité bien marquée, qu'il faut préserver tout en l'adaptant. Consciente de ces enjeux, la ville de Tours mène une politique pour le Tours de demain, dans laquelle elle s'engage à adapter la ville aux enjeux et aux conséquences du changement climatique. Dans ce podcast, nous essaierons de décrypter cette volonté politique et les moyens juridiques de la concrétiser en nous focalisant sur l'enjeu de la chaleur urbaine. Ainsi, nous allons nous demander par quels moyens juridiques la ville de Tours peut-elle agir contre les îlots de chaleur urbains. Afin d'illustrer la difficulté d'adapter la ville, notre débat portera sur le cas de l'espace Porte de Loire, catalyseur de ces problématiques.
Les espaces urbains sont parfois difficiles à adapter du fait de leur valeur patrimoniale. Il faudra alors jongler entre la préservation de cette dernière et une adaptation nécessaire au changement climatique, sans pour autant dénaturer ces espaces. Porte de Loire, étant situé en plan de sauvegarde et de mise en valeur, illustre parfaitement ces difficultés. C'est un document d'urbanisme pouvant être établi sur toute une partie d'un site patrimonial. Il tient lieu de plan local d'urbanisme sur le périmètre qu'il couvre. Il a pour objet d'organiser la protection particulière du site patrimonial. Il contient un rapport de présentation, un règlement et peut comporter des orientations d'aménagement et de programmation relatives à des immeubles bâtis ou non bâtis ou ensembles d'immeubles. assorti le cas échéant de documents graphiques.
Dans notre cas, il faut nous arrêter sur les prescriptions du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur. C'est dans ce document que sont définies les règles intéressant la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Dans sa partie espace libre protégé à dominante minérale, ce qui correspond à l'espace Porte de Loire, le plan prescrit que, si le caractère des lieux s'y prête, la mise en valeur de l'espace libre par des éléments végétaux est admise, dans le respect de la qualité patrimoniale et traditionnelle de l'espace concerné et en conservant une dominante minérale. Ce document prévoit également que les espaces à dominante minérale ne peuvent associer que très ponctuellement de la végétation. Juridiquement, une potentielle végétalisation de l'espace Porte de Loire est donc fortement encadrée. Le règlement peut ainsi être vu comme un frein à la réalisation de ce type d'opération. Entré en vigueur le 6 février 2014, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ne semble pas adapté aux enjeux actuels liés au changement climatique et à ses effets dans les villes. Dès lors, sa révision ou la rédaction d'un nouveau plan pourrait permettre d'actualiser les enjeux auxquels il répond. Et cette solution est préférable lorsque l'on sait que les autres moyens de lutter contre les îlots de chaleur urbains sont également freinés par le plan actuel. Par exemple, un changement de revêtement ou une désimperméabilisation des sols sont impossibles. Ce mot n'apparaît même pas dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur actuel. Pour nous éclairer sur cette question, nous sommes allés à la rencontre de Monsieur Gigot, maître de conférence à l'Université Paris-Cité sur les questions d'urbanisme.
Alors, je n'ai pas de réponse précise à apporter. Néanmoins, dans la note qui précise les enjeux de révision d'extension du PSMV, on affiche un projet d'un écocentre patrimonial. Donc, il y a quand même cette idée d'inclure ces problématiques liées au développement durable et à la végétalisation. Néanmoins, on voit bien que le terme de lutter contre les îlots de chaleur urbain n'est pas présent. Alors, on retrouve quand même le plan climat, air, énergie, territoire, une déclinaison de ce plan climat, air, énergie, territoire, mais je n'ai pas vu spécifiquement, après je ne l'ai pas parcouru en détail, mais je n'ai pas vu spécifiquement des choses sur la lutte contre les îlots de chaleur urbain.
Pour savoir si le caractère des lieux s'y prête, comme mentionné dans le règlement, il faut demander un avis à l'architecte des bâtiments de France. Pour éclairer ce point, et notamment l'impact d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur dans les zones à végétaliser, nous avons rencontré M. Hubert Garcia, architecte en relation avec cette institution. Il nous a confirmé qu'en site classé, toute opération de travaux est soumise à autorisation préalable d'un architecte des bâtiments de France. Selon le Code du patrimoine, ce dernier doit s'assurer du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Finalement, la possibilité de végétaliser l'espace Porte de Loire dépendra de l'interprétation du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur par l'architecte. Le droit laisse toujours une marge de manœuvre aux acteurs chargés de l'appliquer, selon l'interprétation qu'ils font des textes. Dès lors, un architecte des bâtiments de France pourra trouver que le lieu se prête parfaitement à une végétalisation et un autre non, ou que cette opération respecte le patrimoine avoisinant, ou que cela remet ou non en cause la dominante minérale de cet espace. En réalité, du fait des textes et de leur interprétation possible, une opération de végétalisation de l'espace Porte de Loire est soumise au bon vouloir de ces architectes, qui peuvent être plus ou moins ouverts à cette idée selon la personne chargée du dossier. Selon M. Garcia, il n'y a jamais vraiment d'opposition aux avis rendus par l'architecte des bâtiments de France, car ceux-ci ne prennent pas vraiment parti. Ces derniers rendent des avis tranchés et sont considérés comme les seuls réellement compétents en la matière. Durant notre entretien, il nous a précisé qu'il était souvent bien plus simple, voire quasiment sûr, de pouvoir passer d'une zone à dominante minérale, c'est-à-dire avec du bâti, à une zone végétale. Dans ces cas-là, l'architecte des bâtiments de France donne toujours son autorisation, alors qu'inversement, c'est beaucoup plus compliqué, voire quasiment impossible. Ainsi, nous avons pu échanger avec l'adjointe chargée de l'urbanisme à la mairie de Tours, Cathy Savouré.
La discussion que l'on peut avoir avec l'architecte des bâtiments de France, bien qu'un PSMV soit très encadré, parce que dans un plan de sauvegarde et de mise en valeur, chaque bâtiment est protégé. Ce que l'on a travaillé avec l'architecte des bâtiments de France, d'un commun accord, c'est comment on peut quand même amener du végétal au cœur du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Et c'est ce qui a été fait en haut de la rue Nationale, où, après discussion, l'architecte des bâtiments de France nous a autorisé à planter un alignement d'arbres, les fameux chênes, de part et d'autre de la rue Nationale, parce que s'il y a un endroit qui est vraiment un îlot de chaleur, c'est bien la rue Nationale, puisque vous avez un effet un peu canyon, et puis toute la plateforme du tram est complètement imperméable.
Enfin, nous avons abordé avec M. Garcia la question de la végétalisation de l'espace Porte de Loire. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut retracer l'histoire de cette zone. C'est une zone à dominante minérale dès son origine, avec des structures, des bâtiments et une rue droite où il n'y a jamais vraiment eu d'arbres ou de végétaux. Pendant longtemps, l'architecte bâtiment de France n'était pas d'avis de végétaliser cette zone. Cependant, il tend aujourd'hui à démocratiser cela en autorisant la plantation d'arbres dans la zone Porte de Loire, mais sous certaines conditions. Ces dernières sont cependant concrètes, telles que les essences d'arbres utilisées ou l'emplacement entre ces plantations. Il faut savoir que ce ne sont pas des obstacles juridiques. Ainsi, l'architecte des bâtiments de France semble actuellement favorable à une opération de végétalisation de l'espace Porte de Loire. Cependant, dans la mesure où cette opération devra respecter le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur, elle ne pourra être que de faible ampleur, et donc d'un effet relativement faible.
En conclusion, nous pouvons affirmer que les outils actuels de l'urbanisme paraissent en retard face à la lutte contre les effets du changement climatique en ville. Les règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur datent de plus de 10 ans. En conséquence, la solution la plus efficace serait de mettre à jour ces outils et donc de modifier nos documents d'urbanisme afin qu'ils ne soient plus des freins à la transformation des villes, mais qu'ils puissent, au contraire, accompagner et encadrer celles-ci pour s'adapter au changement climatique.
Et oui, il est midi 4 et je suis encore là, c'est toujours moi, c'est toujours la Méridienne, puisqu'on ne fait pas les choses à moitié à Radio Campus, quitte à déborder un petit peu, allons-y franchement. Et je redonne la parole à mes invités pour vous rappeler, auditeurs, auditrices, qu'il y a un jeu concours, enfin il y a un jeu, en tout cas un concours, vous allez pouvoir nous en dire plus sur ces podcasts, alors on peut voter.
Tout à fait, les étudiants donc ont réalisé ces podcasts et donc l'université lance un concours afin d'élire le meilleur podcast en droit de l'environnement et de l'urbanisme. Donc vous avez jusqu'à dimanche, chers auditeurs, chères auditrices, pour voter pour votre podcast préféré.
Et alors, on gagne quoi ? Enfin, le lauréat gagnera quoi ?
Alors, le groupe qui remportera donc le prix du meilleur, du meilleur podcast en droit d'environnement et de l'urbanisme remportera un pass une journée pour le festival Terre du Son le 14 juillet.
Festival éco-responsable, hein, évidemment, tout est lié.
Rappelons-le. Tout à fait.
Eh bien, merci encore à mes trois invités d'être venus, mais ça, vous n'êtes pas trop loin, jusqu'à Radio Campus Tours, puisque nous sommes voisins, n'est-ce pas, dans le beau quartier des Deux Lions cette fois-ci. Je vous souhaite pour de vrai une bonne journée à tous et à toutes, et je vous rappelle que tous les podcasts sont à écouter sur le site du FacLab et peut-être même sur notre site radiocampustours.com.